Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hello, c'est Laetitia.
Salut, c'est Lucille. Pour ce nouvel épisode de Laetitia et Lucille présentent le sexe, on va vous parler neuroatypie et sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme neuroatypie ? Déjà, tous les troubles dys, donc la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie ou la dysphasie, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les fameux TDA, avec ou sans H, l'hypersensibilité, la bipolarité ou encore l'autisme, mais il y en a d'autres. Ça représenterait 20% de la population si on prend toutes les neuroatypies en compte. Et toi, Laetitia, t'es concernée ?
Moi, je suis concernée et je pense que parmi ces 20%, ce sont les personnes qui ont réussi à obtenir un diagnostic. Parce que ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Moi-même, j'ai été diagnostiquée, j'avais 30 ans. Alors qu'en revoyant mon passé et en revivant tout ce que j'ai pu vivre pendant mon enfance et mon adolescence, même ma psy, qui a d'ailleurs très hâte d'écouter cet épisode, m'a dit « Mais comment vous n'avez pas été diagnostiquée plus tôt ?»
Et toi, t'es TDA.
Voilà, moi je suis TDA avec une grosse insistance sur le H. La plus grosse partie de mon trouble de l'attention est liée à de l'hyperactivité. Donc c'est pour ça les auditeurs et les auditrices ne le voient pas, mais pendant qu'on enregistre, je suis toujours en train de jouer avec des choses en même temps, de m'occuper les mains, parce que sinon je vais prendre le micro et me mettre à me balader dans le studio telle Maria Carey, et c'est pas très bien pour l'enregistrement.
Il faudrait qu'on ait des petits micros comme Britney Spears.
Des micro-cravates ou des micro-casques, comme ça je pourrais faire comme si j'étais en train de faire un TED Talk, mais c'est pas une très bonne idée quand même.
Alors pour les personnes neuroatypiques, les sensations physiques et émotionnelles peuvent être intense, ce qui peut être très positif, comme très négatif, et ça crée du décalage avec un ou une partenaire sexuelle potentiellement. Ça peut aussi provoquer une baisse de l'estime de soi si la personne n'a pas réussi à partager ou à exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire ou ce qui aurait pu lui faire plaisir. Est-ce que toi, t'as déjà ressenti ça par rapport à ta sexualité, surtout au début par exemple ?
J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, et en fait c'est vraiment quand j'ai eu mon diagnostic que je me suis reposé plein de questions par rapport à ma sexualité, que ce soit sur les pratiques que j'ai pu aimer à des moments donnés, les types de personnes que je fréquentais, la façon dont je gérais parfois la frustration pendant les rapports où j'avais tendance à carrément me déconnecter un petit peu de moi-même, on appelle ça de la dissociation, juste parce qu'en fait les sensations c'était trop pour moi d'un coup. Je pouvais vraiment tout ressentir en mode plus à ces moments-là. Donc le moindre bruit, la moindre respiration, le moindre geste, s'il y a une miette dans le lit, s'il y a une lumière qui clignote, s'il y a une voiture qui passe dans la rue, il y avait vraiment tout et n'importe quoi qui pouvait me sortir du sexe et du coup complètement me casser dans mon envie, me sortir du truc au tel point que j'oubliais ce que j'étais en train de faire. Je sais que j'ai des partenaires qui m'ont fait la réflexion en mode « Ouais, j'ai eu l'impression que t'étais pas à fond dedans. » Non, parce que j'étais à fond dans tout ce qui se passait autour, en fait, et que j'arrivais plus à me concentrer sur ce qui se passait. Je m'oubliais totalement là-dedans.
Et du coup, t'arrivais pas à avoir de plaisir.
Et du coup, j'avais beaucoup de mal à avoir du plaisir. C'était vraiment quelque chose de très, très perturbant parce que Moi, voilà, j'ai un TDAH, donc c'est quelque chose qui est très particulier. Les personnes qui sont autistes ou qui sont bipolaires ou qui sont sur le reste du spectre neurodivergent ressentiront pas forcément les choses de la même façon. Mais en fait, moi, si j'ai trop de choses sur lesquelles je dois me concentrer, j'oublie rapidement que je dois aussi prendre du plaisir dans tout ça. Ou alors, au contraire, je me mets trop la pression sur le fait que je dois prendre du plaisir et du coup, je dois rester dans l'instant. C'est beaucoup de pression, en fait, de faire du sexe quand t'as l'impression que tout ce qui se passe autour de toi est en train de blinder tes sens de son, de bruit, d'odeur et que tu sais plus par où commencer pour décoder tout ce qui se passe.
Alors du coup, la question, c'est est-ce que la solution, c'est pas de se connaître vachement bien et du coup de prévoir? C'est-à-dire que s'il y a des trucs qu'on n'aime pas, si on a des draps qui sont un peu rêches et qu'on supporte pas pendant le sexe, par exemple, est-ce que changer ses draps, ça peut paraître très un problème, une solution, mais pour le coup, en cas de surstimulation, je crois que ça peut être une piste, en tout cas, changer les lumières chez soi, préparer à l'avance pour être sûr que quand en pleine action, on soit dans l'action, quoi.
Il y a plein de pistes qu'on peut explorer. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec une psychologue. Je fais ce qu'on appelle de la thérapie comportementale et cognitive qui m'aide à mieux comprendre pourquoi mon organisme va être overstimulé par tout ce qui se passe autour de moi et comment mon TDAH va être déclenché. Moi, je sais que, par exemple, ce qui va me déclencher, c'est l'anxiété. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Le cadre sexuel, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué dans des grandes largeurs. Mais effectivement, l'une des clés quand tu es neuroatypique, c'est de trouver des routines et des modes de fonctionnement qui te rassurent, qui sont intégrés par ton organisme et par ton cerveau et qui, du coup, vont te permettre de plus avoir à y penser, en fait. Tu vois, l'exemple que ma psy m'a beaucoup donné, c'est Mark Zuckerberg qui s'habille toujours de la même façon. Parce qu'il n'a pas envie d'avoir à réfléchir à comment il s'habille le matin, parce qu'il a déjà trop de décisions à prendre dans sa journée. Et ben, moi, c'est un petit peu pareil en sachant, par exemple, tu vois, tu donnais le cas des draps. Moi, il y a une époque où je m'étais dit, ah, je vais être un peu kinky, je vais mettre des draps en satin dans mon lit. C'était une horreur. Vraiment la pire expérience de ma vie. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression que si j'étais pas épilée vraiment au poil près, le moindre de mes poils se coinçait dans le satin. donc, du coup, je n'arrivais plus à me concentrer sur rien. Donc voilà, c'est vraiment la preuve que apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on aime et apprendre à savoir ce qui nous rassure, ça permet de pouvoir sortir de sa tête justement pour avoir des rapports un peu plus satisfaisants. Mais surtout, il faut pouvoir le communiquer à la personne avec qui tu fais du sexe. Et ça, de mon expérience, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué.
Parce que c'est pas bien pris. Parce que du coup, il faut assumer déjà que du coup, on a déjà eu des rapports sexuels où on était un peu déconnecté. Il faut pouvoir le dire et c'est un peu dur à entendre.
Il faut pouvoir le dire et puis il faut que la personne en face soit prête à comprendre que s'il y a un moment où je vais me déconnecter pendant le sexe, c'est pas parce que c'est mauvais. Ça peut être parce que c'est mauvais. Hein. Je me suis déjà très bien concentrée sur des films qui étaient en bruit de fond tellement le sexe n'était pas bon. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent autour. Donc c'est comprendre que parfois, en plein rapport, mon cerveau peut partir ailleurs, je vais me mettre à rire parce que je vais avoir pensé à un truc ou je vais avoir envie de faire quelque chose de différent parce que mon cerveau d'hyperactif s'ennuie. Et à côté de ça, je vais avoir aussi des longues périodes où je vais juste pas avoir envie de sexe parce que c'est trop ou juste parce que je n'y pense pas. Et que si j'ai pas les choses en face de moi, avec la forme de TDAH que j'ai, où j'ai beaucoup de ce qu'on appelle d'object permanence, c'est-à-dire que si les choses ne sont pas sous mes yeux, elles n'existent pas. À part si on me met vraiment la sexualité dans mon champ de vision, je vais oublier que c'est quelque chose qui me plaît et que j'apprécie.
Ah, il faut que la personne soit devant toi nue et motivée, quoi.
C'est ça. C'est un petit peu ça. C'est vraiment quelque chose... au même titre que t'as toujours un plat que t'oublies dans ton frigo, dans un tupperware au fond, et tu le retrouves, il est complètement moisi. Parce que tu le voyais pas, donc t'as oublié qu'il existait. Moi, il suffit que j'ai une période où j'ai pas de libido pour que j'oublie que le sexe, ça existe.
Et c'est pas quelque chose dont tu souffres, c'est juste comme ça, quoi.
Moi, c'est pas quelque chose dont je souffre parce que je ne le ressens pas, en fait. Mais je sais que j'ai des partenaires que ça a pu frustrer par le passé. C'est surtout ça, je pense, qui est compliqué à gérer dans la sexualité quand on est neurodivergent. C'est que les partenaires n'ont pas forcément l'éducation autour de ça. Et que comme eux, ils ont soit une libido qui est plus forte, soit une libido qui fonctionne différemment, tout simplement.
Ou peut-être plus constante.
Qui est peut-être plus constante, voilà. Ils ont du mal à comprendre et à se dire, mais voilà, la semaine dernière, t'aimais bien cette pratique et puis t'avais tout le temps envie de faire l'amour. Là, cette semaine, tu supportes pas que je te touche à tel ou tel endroit. qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a vraiment une incompréhension à ce niveau-là.
Parce que toi, dans ta neuroatypie, il y avait une sorte de période aussi d'hypersexualité.
L'hypersexualité, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes neuroatypiques, notamment parce qu'on fait ce qu'on appelle des hyperfixations. Ça peut être le crochet, le tricot, une série ou une musique qu'on va écouter en boucle. Mais ça peut aussi, je l'ai découvert, se ressortir dans la sexualité. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a eu des périodes où j'étais soit obsédée par des pratiques en particulier, soit obsédée juste par l'idée de faire du sexe avec le plus de personnes possible dans un laps de temps le plus court possible, juste parce que c'était ça qui m'apportait de la dopamine à ce moment-là et qui me faisait que je me sentais bien. Soit carrément, j'ai pu faire des hyperfixations sur des personnes. Et là, ça, c'est un truc dont j'ai fait quelques recherches, hein, forcément, pour cet épisode, et je trouve très peu de gens qui en parlent.
Mais du coup, c'est pas comme de l'érotomanie.
C'est pas vraiment comme de l'érotomanie parce que c'était pas nécessairement des personnes que je sexualisais, mais ça faisait que j'avais du mal à comprendre la frontière de ce que je ressentais pour cette personne. Tu vois, j'étais fixée sur cette personne, j'avais envie d'attirer son attention tout le temps. C'est des messages constants. Se demander si on n'a pas des sentiments qui arrivent déjà de façon très rapide. Ou d'avoir envie de la personne en permanence pour finalement se rendre compte que c'était pas un crush ou une attirance spécifique, c'était juste que c'était la nouveauté, que ça faisait se sentir bien et que du coup il y avait une hyperfixation qui se créait et que c'était pas un crush à proprement parler, c'était juste mon cerveau qui me disait ça c'est bon pour toi parce que ça va te faire te sentir bien.
Mais comment tu te fais confiance après sur tes crushs du coup?
Je me suis beaucoup posé la question. J'ai beaucoup eu parfois honte après avoir fréquenté certaines personnes, après certains types de rapports. Je me demandais en fait pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais eu envie de cette personne alors qu'elle m'attire pas spécialement. Pourquoi est-ce que j'ai accepté qu'on fasse telle ou telle pratique alors que sur le papier c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc j'ai pris le temps de beaucoup m'interroger à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau de me dire est-ce que cette personne me plaît vraiment ou est-ce que j'ai juste besoin d'attention à ce moment précis et que cette personne peut me le donner. Je sors un petit peu la sexualité de mes relations aussi. Parce que,
tu veux dire maintenant avec un peu de maturité et tout.
C'est ça, j'ai arrêté de voir le sexe comme une obligation dans une relation amoureuse. Évidemment, le sexe, c'est génial et c'est quelque chose de particulièrement plaisant quand c'est avec les bonnes personnes. Mais j'ai essayé de me rappeler, ou en tout cas d'apprendre et d'intégrer, que dans une relation amoureuse, s'il n'y avait pas de sexe pendant 2 semaines, 2 mois, 3 mois, c'était pas grave. Et que ça ne voulait pas dire que cette personne était juste devenue une amie ou une colocataire. Et ça m'a permis de me sortir un petit peu de toutes ces hyperfixations, en tout cas dans le cadre purement sexuel.
Tu parlais de sens stimulé, du coup, toi, tu fais quoi ?
Moi, j'ai mis en place plein de petites choses confortables. J'ai mes oreillers que j'aime bien pendant le sexe. J'ai un ventilateur qui est pas loin parce que je sais que ce qui me dérange le plus, c'est la chaleur. Et que quand tu fais du sexe, il y a vite de la chaleur qui se crée. Donc, j'ai besoin de pouvoir me refroidir derrière. J'ai des petits rituels. J'aime bien pouvoir aller prendre une douche juste avant d'avoir un rapport parce que ça va me permettre déjà de me sentir mieux dans ma peau, mais aussi d'apaiser mon esprit, de me calmer. Après, je sais que, par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un bruit de fond, de la musique, la télé. Moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Si tu mets une playlist, je vais me mettre à chanter en plein milieu. et c'est pas forcément, je m'en suis rendu compte, le truc qui excite le plus mes partenaires.
Oui, parce que t'as raison de le dire, mais en fait, selon les neuroatypies et même selon les personnes, les conseils que là on va donner ou les choses qui marchent sur toi, ça marche vraiment pas sur tout le monde.
C'est ça.
Et du coup, il y a des gens qui vont se sentir mieux s'il y a du son, qui vont se sentir mieux s'il y a la radio, parce que du coup, ils vont pas entendre forcément les bruits de corps. Je pense en particulier à certaines personnes autistes qui vont peut-être se sentir dégoûtées par le bruit de la sexualité et préférer du bruit d'ambiance, et les personnes qui peut-être avec un TDAH qui vont avoir du mal si la télé est allumée en fond et qui vont finir par regarder TPMP au lieu de faire du sexe.
C'est pour ça aussi que ça peut être compliqué d'avoir des rapports entre deux personnes qui sont neuroatypiques, surtout si elles ont des neuroatypiques qui ne fonctionnent pas de la même façon. parce qu'effectivement, tu vois, si tu mets dans le même lit une personne autiste et une personne qui a un TDAH et qu'il y en a une qui a besoin d'avoir de la musique et l'autre qui a besoin d'avoir le silence complet, comment tu fais ?
Tu mets un petit bruit de fontaine.
Voilà, c'est... Est-ce que tu utilises des bruits blancs, des bruits rouges est-ce que tu allumes toutes les lumières ? Est-ce que tu mets un masque à ton partenaire, un masque, un casque, des AirPods, je sais pas, pour qu'il puisse avoir sa musique et pas se concentrer sur le bruit des corps ? C'est pour ça que c'est hyper important d'en parler avec ses partenaires pour pouvoir trouver des choses qui fonctionnent pour les deux personnes. Parce que moi, je sais que, par exemple, le fait d'aimer prendre une douche avant un rapport, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, mais du coup, ça t'empêche d'être spontané, d'avoir du sexe spontané. » Je fais « Oui, mais moi, le sexe spontané, c'est pas un sexe qui va m'apporter du plaisir. » Donc voilà, je peux être spontanée et spontanément te dire « Je vais prendre une douche, comme ça, peut-être qu'après, on pourra faire des choses. »
Oui, mais ça prend pas forcément 45 minutes.
Voilà, ça peut être une douche de 2 minutes, et serviette, passage de serviette compris. Mais ça me permet de me mettre dans le mood, en fait.
Ça, bah, du coup, c'est idéalement, c'est quand on est parlé de ce dont on a besoin, parlé de ce qui marche pour nous. Idéalement, c'est quand on est en couple. C'est assez difficile avec quelqu'un qu'on a vu pour un soir, en général.
Bah, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment l'occasion de me poser la question. Parce que je me suis fait diagnostiquer juste avant de me mettre en couple avec ma compagne actuelle.
Comme c'est pratique.
Et du coup, j'ai pas eu à me reposer la question de devoir expliquer à quelqu'un que je suis neuroatypique, que le sexe pour moi, ça ne se passe pas toujours comme dans les films ou comme dans certaines relations avec des personnes neurotypiques. Et du coup, la personne m'a accompagnée dans tout le processus de diagnostic, dans tous mes questionnements par rapport à ça. Donc, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de liberté pour en parler. Donc, j'ai jamais eu besoin de me demander comment je ferais le jour, ou si un jour, j'espère pas, j'aurais besoin de relationner avec quelqu'un d'autre, comment ça se passera. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas une conversation qui est facile à avoir.
Les psys, ils en parlent facilement de ça, quand tu te fais diagnostiquer, quand t'es sur un process, justement, soit pour te faire médicamenter ou pas. La sexualité, c'est un sujet qu'ils abordent tranquillement.
Eh ben non. La sexualité, moi, c'est quelque chose que j'ai très peu abordé finalement avec que ce soit ma psychiatre qui me suit pour la partie médicamenteuse ou ma psychologue qui me suit pour la partie thérapie comportementale et cognitive. On parle très peu de sexualité, peut-être parce que j'aborde pas le sujet tout simplement aussi. Mais la seule chose dont on m'avait prévenu, c'était l'impact des médicaments sur ma libido, parce que ça fait partie des choses qui sont obligatoires dans les effets secondaires, de te prévenir un petit peu de ce que ton traitement peut faire. Mais voilà, les discours sur la sexualité ne sont pas venus de la part des professionnels de santé qui me suivaient, en tout cas. Je pense que si j'avais eu des questions, elles y auraient répondu avec plaisir, mais le cas de figure ne s'est pas présenté.
Tu penses qu'il ne faut pas hésiter à en parler si on est suivi pour pouvoir justement mieux se connaître ?
Je pense que ce serait peut-être même plus efficace d'en parler directement avec une sexologue ou une sexothérapeute, parce que... La psychanalyse et la sexualité, c'est pas forcément des choses qui vont vraiment de pair, et que une sexologue sera plus capable de répondre à tes questions sur des thématiques qui sont vraiment en lien avec la sexualité, parce que soit elle aura eu d'autres patientes ou d'autres patients qui auront eu des expériences dont elle pourra te parler, soit ce seront des choses qu'elles auront plus poussées, parce que bah voilà, ça reste leur job de parler de sexualité. Moi, ma psychiatre, elle me parle beaucoup de l'impact de l'anxiété, du stress, de ma vie quotidienne, de mon état de santé normal. Voilà, de si jamais je suis malade, si jamais j'ai des chutes de tension, des choses comme ça. Parce qu'elle a ce côté très médical. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à parler de sexualité avec du personnel médical, par exemple. Je trouve ça beaucoup plus simple d'en parler avec des sexologues ou des sexothérapeutes parce que y a pas cette gêne. Tu sais que tu vas parler de sexe à cette personne, donc...
Oui, elles sont là pour ça.
Elles sont là pour ça, donc je pense que pour les personnes qui seraient neuroatypiques et qui auraient des questions par rapport à leur sexualité et aux spécificités de leur sexualité, ça peut être intéressant d'en parler directement avec une sexologue ou une sexothérapeute.
Et puis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un problème pour aller les voir.
Bien sûr.
Une question, ça peut suffire. Mmh. Tu parlais de médicaments. Moi, je sais que j'ai déjà pris des médicaments qui avaient des conséquences sur la libido. Pas pour les mêmes raisons que toi, mais le fait est que c'était des médicaments qui avaient quand même des conséquences. En général, les médecins le disent un peu. Ça peut vous faire baisser votre libido, mais c'est tout. On dit pas que ça peut aussi avoir un effet sur le moral, par exemple, de plus avoir de libido. Toi, t'as déjà vu des conséquences sur tes médicaments, par exemple ?
Bah là, je suis en plein dedans, par exemple, en ce moment, parce que le traitement que je prends pour le TDAH, c'est un traitement qui est régulièrement en rupture de stock. Donc, il y a plusieurs médicaments différents qui existent et je switch un peu tous les 3 mois en fonction de celui qui est disponible à ce moment précis. Et là, je suis repassée sur un médicament que j'avais pas pris depuis quasiment 2 ans, qui est très efficace pour me donner plein d'énergie et pour calmer mon TDAH, mais qui, à côté de ça, me donne de terribles migraines et des nausées. Et forcément, le combo migraine plus nausée, c'est pas le meilleur combo pour se sentir sexy. Et du coup, ça a un impact automatique sur ma libido parce que je suis pas dans un état physique qui me permet d'avoir des rapports. Mais ça n'a pas. C'est ça en fait qu'on oublie de préciser généralement quand on dit ça peut avoir un impact sur la libido. C'est que c'est pas forcément la libido en elle-même qui va être affectée, qui va augmenter ou diminuer. C'est juste que ça va avoir un impact sur toute la façon dont tu te sens. Et que du coup, bah, tu peux soit te sentir beaucoup plus en confiance et avoir envie de plus de rapports, ou au contraire, avoir des soucis de digestion, des maux de tête, qui vont faire que tu vas pas te sentir dans un bon mood, en fait, pour avoir des rapports. Et je sais qu'au tout début de mon traitement, j'ai eu beaucoup de mal aussi à me remettre dans le sexe, parce que mon cerveau ne fonctionnait plus de la même façon. Comme je prenais un traitement qui me donnait de la dopamine, j'étais beaucoup plus calme, j'avais plus mille petites voix dans ma tête en permanence. Et du coup, j'avais l'impression de plus avoir conscience de mon corps comme je pouvais l'être avant. Donc, j'ai mis un peu de temps à appréhender tous ces changements qui se passaient dans ma tête et à les laisser rejaillir naturellement sur ma sexualité.
Et ça, ça a pris longtemps ?
Je pense que ça a pris 3-4 mois quasiment. Vraiment d'adaptation, d'essai. Je sais que c'était une période, par exemple, où j'étais super émotive. Je pleurais tout le temps après le sexe. Parce que j'avais des émotions que je n'entendais pas avant, parce qu'elles étaient enfermées derrière un espèce de brouillard lié à mon hyperactivité.
Des choses physiques ou des choses psychologiques ?
Vraiment des choses psychologiques. Le fait de moins avoir de pensées parasites, ça me permettait de mieux me concentrer sur ce que je ressentais. Et je pense que j'ai aussi redécouvert à quel point le sexe, ça pouvait être génial.
Ce que j'allais dire, t'as eu plus de plaisir à ce moment-là ?
Je pense que j'ai pris beaucoup plus de plaisir depuis que j'ai mon traitement, parce que je me concentre moins sur tout ce qu'il y a autour qui pouvait me sortir de l'acte, justement.
Alors c'est marrant, parce que c'est un truc qu'on entend très très peu, parce que du coup on entend beaucoup que les traitements justement détruisent la libido, on n'y pense plus, on n'en a plus envie, que le corps réagit pas de la même manière. T'es la première personne que j'entends qui dit « j'ai eu plus de plaisir avec le traitement ».
J'ai fait des recherches là-dessus pour essayer de comprendre aussi. J'ai la chance d'être entourée de beaucoup de personnes qui sont neuroatypiques et notamment de beaucoup de personnes qui ont un TDAH. Mes copains et mes copines le savent maintenant. Quand j'ai des questions sur le sexe, je vais y aller franco. C'est mon fond de commerce, c'est mon métier. Donc, je vais leur demander clairement ce qui se passe dans leur tête. Et effectivement, je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Au même titre que je suis beaucoup plus concentrée et que du coup, je bosse mieux, j'ai l'impression aussi de mieux faire le sexe. C'est peut-être un égo trip de ma part, mais j'ai l'impression de pouvoir plus me concentrer sur ma partenaire, de plus pouvoir me concentrer sur mes propres sensations et donc de prendre plus de plaisir.
Mais c'est pas juste tes sensations, t'es aussi une meilleure partenaire sexuelle.
Oui, parce que du coup, j'arrive à mieux me concentrer sur ce que j'aime et donc j'ai envie de me concentrer encore plus sur ce qu'elle aime aussi pour qu'on puisse avoir juste faire du bon sexe, tout simplement. Le fait d'être plus à l'écoute de soi-même, je pense que c'est toujours quelque chose qui est très sain. Pour être meilleur en règle générale.
Est-ce que depuis que tu es sous médicaments, tu as moins de surstimulation ?
J'en ai beaucoup moins. Là, je sais que quand je rentre dans une nouvelle pièce, généralement, j'ai tendance à repérer tous les trucs qui pourraient me perturber. Et je sais que là, je me dis, le casque sur mes oreilles, avant, c'était très compliqué. J'ai une lumière qui est en face de moi et il y a une période où j'aurais demandé à ce qu'elle soit éteinte. Parce que sinon, j'aurais passé mon temps à regarder la lumière et puis ça fait des petites lumières dans mes yeux, ça fait des formes comme un kaléidoscope. Faut pas chercher, hein. Il se passe des choses bizarres dans ma tête. c'est parfois compliqué. Et puis j'ai appris aussi à accepter que parfois j'avais besoin d'échappatoire pour ne pas être overstimulée. Donc, par exemple, j'ai pris l'habitude de me dire que je pouvais dessiner quand les gens me parlent et quand même les écouter et que c'était pas un problème.
Que c'était pas impoli.
Que c'était pas impoli, tout simplement. Même si on me l'a beaucoup reproché à l'école. Mm. J'ai appris que pouvoir faire des choses pour être confortable, c'était important. Que ce soit au quotidien comme dans ma sexualité. Et je pense que le fait d'avoir été diagnostiquée d'un TDAH, ça m'a aidé à comprendre tout ça.
Ouais. Parce que du coup, comment tu fais dans ton couple ? Ça, c'est un truc que tu pratiques depuis que t'es diagnostiquée, de parler de tout ça, de pouvoir mettre des mots là-dessus ?
Depuis longtemps, j'essaye de beaucoup plus parler de tout ça avec mes partenaires sexuels, parce que c'est une déformation professionnelle, je pense. Hein. Tu dois le savoir un peu comme moi. Quand on évolue dans le journalisme sexo et que le sexe fait partie intégrante de notre vie d'un point de vue professionnel, on a tendance à beaucoup plus en parler. Du coup, ça crée des conversations avec les partenaires. Et du coup, j'ai vite fait un tri. Les partenaires qui n'étaient pas intéressés pour avoir ces discussions et pour comprendre ce qui pouvait me mettre à l'aise ou mal à l'aise, je les ai dégagés. Parce que qui a le temps pour ça, hein, maintenant ? C'est un désavantage de la trentaine, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a plus de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas prêts à nous écouter. Mais je pense que ouais, ça, le diagnostic a renforcé tout ça. Ça m'a donné une forme de légitimité, je pense, à expliquer aux gens, voilà, moi j'ai besoin que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça va sonner bizarre, mais dans ma tête, je me disais presque, c'est pas parce que je suis chelou, c'est juste parce que je suis neuroatypique. Mais ça veut un peu dire la même chose au final. Hein, donc, et puis voilà, il y a pas de choses qui sont plus normales que d'autres dans le sexe. Ça, j'ai mis longtemps à l'intégrer.
Parce que j'allais dire, c'est un truc, quand tu as une sexualité avec quelqu'un, tu recrées un truc de zéro, et du coup, la personne arrive avec les trucs qu'elle aime, les trucs qu'elle aime pas, ça peut être n'importe quoi, donc c'est pas forcément un truc de neuroatypie, hein. Ça peut être aussi... Moi, je sais que je déteste le rock pendant le sexe. Les gens qui mettent des playlists, et il y a des playlists de musique spécifiquement qui me rendent dingo, qui me déconcentrent totalement, et je pense qu'il y a plein de gens comme ça, en fait. Il y a des gens qui supportent pas qu'il y ait la chanson française, par exemple, parce que c'est un truc qu'ils entendent et qu'ils comprennent, et donc du coup, ça, c'est insupportable.
Je peux comprendre qu'entendre du Gilbert Montagnier ou du Jacques Brel en plein rapport, ça peut être perturbant.
Exactement, mais donc du coup, je pense qu'il y a, en fait, il y a pas, là pour le coup, il n'y a pas d'anormalité particulière, il y a juste des spécificités et des histoires. Et c'est vrai que débarquer et demander à l'autre qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, au fait, moi je vais débarquer avec ma playlist de bruit de dauphin, qu'est-ce que t'en penses et tout. Au contraire, je trouve que ça fait des bonnes histoires à raconter.
Est-ce que toi, t'as déjà été confronté justement à des partenaires qui t'ont dit « Moi, j'ai une neuroatypie, du coup, il y a des choses que je vais faire différemment. »
J'ai déjà eu des partenaires avec une neuroatypie, mais personne qui m'a mis des choses particulières. Alors, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je m'adapte beaucoup et je fais pas attention. Mais non, personne... Après, ça dépend aussi comment on se connaît. Tu vois, tu disais, toi, t'as été diagnostiquée, donc du coup, t'as réfléchi. Je pense qu'il y a des gens qui ont des neuroatypies qui... pas forcément ont été au bout de ce process du diagnostic et aussi de se poser la question de qu'est-ce que je fais différent ou pas. J'ai peut-être eu des partenaires qui ont aussi beaucoup réfléchi à la question de scénario, par exemple, dont on peut se demander si soit c'est un kink, et donc c'est des gens qui aiment bien écrire un peu tout leur rapport sexuel, ou alors est-ce que c'est une façon de se rassurer, est-ce que c'est une façon de se préparer à la sexualité. Je sais pas du tout. Je sais que j'ai déjà eu des partenaires neuroatypiques, mais est-ce qu'il y a des spécificités sexuelles liées à ces personnes-là? Je ne sais pas.
C'est ouf parce que je m'étais jamais posé la question justement du côté scénario de est-ce que c'est un kink ou est-ce que c'est quelque chose qu'on crée aussi pour se rassurer, pour se préparer.
Je pense que ça peut être les deux. Je pense que alors bah du coup dans la liste de pistes de petites idées pour les personnes neuroatypiques qui nous écouteraient et qui auraient un petit doute sur quoi faire ou quoi tenter. Moi j'avais mis établir un scénario parce que je pense qu'en particulier pour les personnes autistes ou pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées justement par des routines, écrire sa propre routine et la créer à deux aussi, c'est une très très bonne idée par exemple. Ça peut donner l'impression à l'autre qui participe par exemple.
C'est du coup je suis en train de remettre plein de choses en question dans ma propre tête encore maintenant parce que moi je sais que j'ai une petite habitude généralement quand je rencontre des gens dans le but d'avoir des rapports avec eux, j'ai tendance à leur poser beaucoup de questions et à leur parler très rapidement de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Et pour moi, dans ma tête, c'était vraiment un truc en mode éviter les mauvaises surprises, dire à tel partenaire que j'aime pas telle et telle pratique,
puis
etc.
Un peu consentement,
etc.
Quoi.
Une question de consentement déjà. Mais du coup, est-ce que c'est aussi une façon, quelque chose qui est lié à mon TDAH, qui me permet de me rassurer et d'éviter d'être dans une zone d'inconfort? Voilà, j'ai encore.
T'as encore des choses à explorer.
Je passe mon temps à découvrir des nouvelles choses. C'est pour ça que pour moi, TikTok est presque devenu une source d'information à ce niveau-là, parce qu'il y a de plus en plus de créateurs qui parlent justement des neuroatypies.
D'accord.
Et notamment du TDAH. Il y a énormément de désinformation. Ça, c'est quelque chose dans lequel il faut savoir naviguer. C'est pour ça que généralement, quand je vois des choses, je les note et ensuite je pose la question à mes psys. Mais parfois, je vois passer des choses et je fais voilà, je pensais avoir un trait de personnalité qui était un petit peu original, mais non, c'est juste mon TDAH. Donc voilà, c'est...
Après, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de vidéos genre « tu es TDAH si tu fais tel truc » et effectivement... Et ça, tu as l'impression que tu te retrouves beaucoup là-dedans?
Bah, il y en a certains où oui, effectivement, où je me suis beaucoup retrouvée. C'est même un petit peu ça qui m'a poussée à me faire diagnostiquer au début parce que je voyais passer beaucoup de vidéos sur le TDAH et je me disais « mais c'est bizarre parce que tout ça, je le fais ». Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai fait tous les tests en ligne possibles et imaginables, les vrais tests psychologiques, hein, pas les trucs BuzzFeed et compagnie. Et du coup, j'ai fini par prendre rendez-vous chez une psychiatre spécialisée.
Ouais.
Je suis arrivée en retard avec un dossier énorme, trié par code de couleur avec des intercalaires, avec toutes mes recherches. Elle m'a fait « oui, bon, bah, ça va être assez rapide, hein. Je pense que, effectivement, vu votre attitude, il n'y a pas beaucoup de doutes à avoir ». Donc voilà, je pense que ces vidéos peuvent avoir une aide à ce niveau-là, mais effectivement, il y a eu une trend pendant un moment qui m'énervait où ils faisaient des mash-ups de musique
ouais.
et ils disaient si t'arrives à comprendre les paroles des deux morceaux en même temps, c'est que t'as un TDAH. Non, c'est juste que tu as des oreilles.
Ou que tu connais déjà les morceaux.
Ou que tu connais les morceaux. Hein, c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui sont extrapolées. Faut savoir trier le vrai du faux. Et c'est pas parce qu'on a quelques symptômes qui sont liés au TDAH ou à n'importe quelle autre neuroatypie que ça veut dire qu'on est forcément neuroatypique. Mais si vous avez vraiment des doutes, en fait, le plus simple, c'est de trouver un professionnel de santé à qui en parler. Donc, psychologue, psychiatre. Même les médecins traitants, hein, maintenant, ils sont un petit peu formés à comprendre, à au moins repérer les premiers symptômes.
Et puis, ils peuvent te renvoyer vers quelqu'un de
voilà,
plus compétent.
Ils peuvent t'aiguiller.
Du coup, moi, j'avais quelques pistes de choses qu'on peut faire si on a une neuroatypie, qu'on pense qu'on a une neuroatypie ou qu'on a l'impression qu'on n'est pas toujours en phase avec soi-même pendant la sexualité. Donc, on parlait du fameux scénario. Je pense que ça peut être un truc super sexy et à partager avec l'autre personne aussi. Donc, pourquoi pas, pensez-y. Au contraire, parfois, écrire les choses à l'avance, en dehors du fait qu'on sait ce qui va se passer et que ça peut être un peu cocon et on peut se sentir mieux par rapport à ça, c'est pas forcément quelque chose de pas sexy, comme on dit, par exemple, donner son consentement au départ, c'est un peu pas sexy, ça casse la magie et tout. Moi, je trouve qu'au contraire, ça peut être vraiment sexy, au contraire, d'avoir sa co-création ensemble en amont. S'il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise, si on se rend compte qu'il y a des choses dans la sexualité qui ne sont pas OK avec nous, que ce soit une problématique de drap, de lumière, de son, ou aussi d'endroits où on est touché ou de façon dont on est touché, que ce soit une question d'intensité ou une façon, ou en gros la pratique à proprement parler, on peut établir des codes, un ou plusieurs codes, pour exprimer sa gêne et son envie de passer à autre chose. Ça évite de devoir dire non tout le temps. Si on se sent un peu culpabilisé à l'idée de dire non ou de dire stop tout le temps, on peut aussi faire des petits codes. Alors ça peut être une façon de serrer la main, ça peut être un petit signe visuel.
Les fameux safe words.
Exactement, qui sont des choses qu'on reprend du code BDSM et pour lequel on choisit un mot à l'avance. Ça peut être camembert, ça peut être constitution, qui sont des mots qui sont pas forcément des mots qu'on dit normalement pendant le sexe, mais qui veulent dire passons à autre chose. Là, ça me va plus, je suis plus OK avec ce qui se passe. Si on a besoin souvent de changer d'activité, parce qu'on se rend compte qu'au bout de même 5 minutes de cunnilingus, on commence à se désintéresser de l'activité et qu'on commence à penser à autre chose, c'est pas une bonne chose de penser à ses courses ou à n'importe quoi pendant le sexe. Si on se rend compte qu'on le fait régulièrement ou qu'on le fait à chaque fois, c'est qu'il y a probablement un problème. Bah, du coup, on peut prévoir des jouets, on peut prévoir des activités en fait à l'avance. Pareil, ça c'est pas sexy. On fait sa boîte avec tous les trucs qui nous plaisent et quand on s'ennuie, on dit bah passons à autre chose, cherchons un jouet, cherchons un truc à essayer ensemble. Il y a vraiment plein de choses disponibles aujourd'hui pour les hommes, les femmes, tout le monde et il faut pas hésiter.
Alors, si je peux apporter une toute petite nuance sur ça. Enfin, plutôt un conseil, tester les choses en amont,
à l'avance, bien sûr.
Parce que moi, je sais que par exemple, il y a plein de types de sextoys qui vont m'overstimuler parce qu'ils vont être trop forts, qu'ils vont faire trop de bruit. Moi, je rêve d'un sextoy qui soit silencieux.
Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème justement aussi du sextoy qui fait un bruit de tondeuse.
C'est horrible, j'ai l'impression de masturber avec un rasoir électrique, parfois un épilateur, et du coup,
c'est
très perturbant. J'ai pris la technique d'empiler plusieurs couvertures sur moi pour que ça coupe le bruit, mais c'est pas forcément pratique avec un partenaire ou en été.
C'est ça. Et après, il y a aussi le truc du casque, il y a plein de trucs à faire, mais globalement, les sextoys font un peu moins de bruit aujourd'hui, et puis comme ils sont pas tous uniquement vibrants, le type de bruit qu'ils font est parfois peut-être moins dérangeant à tenter.
Voilà, donc essayez les choses à ce niveau-là. Comme le disait Lucille tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas de recette qui marchera pour tout le monde. Si ça se trouve, là, on est en train de vous donner des conseils qui vont très bien marcher sur certaines personnes et où d'autres personnes neuroatypiques vont dire « mais c'est n'importe quoi, elle raconte de la merde ». Donc en vrai, si jamais vous avez des recommandations, des choses qui marchent pour vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de l'épisode. Ça peut être très intéressant pour tous les neuroatypiques qui vont nous écouter.
Exactement.
Et qui pourront peut-être trouver des choses qui fonctionneront pour eux. Je trouve ça important en fait d'en parler.
Qu'il y ait du partage d'expérience, même si vous avez l'impression que ça concerne que vous, en fait ça peut peut-être sauver quelqu'un d'autre, donc n'hésitez pas une seule seconde. Dans les pistes, moi je pensais aussi varier les matériels érotiques. Il y a des gens qui en fait consomment pas du tout de porno vidéo parce que ça les dégoûte, parce que ça marche pas du tout pour eux, parce qu'il y a beaucoup trop de bruit dérangeant pour eux, elles et eux. Essayez l'audio, essayez la littérature érotique. Il y a plein de façons d'agrémenter sa vie sexuelle ou sa sexualité sans forcément passer vers des choses qui nous violentent, comme parfois on peut l'être avec le porno vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses à tenter. On parlait de stimulation, bah du coup réfléchir vraiment à votre intérieur dans la sexualité. Quelles sont vos musiques, quelles sont vos lumières, quels sont vos draps, tous ces trucs-là, vous pouvez y penser. Et c'est pas du tout bizarre, et c'est pas du tout un problème.
Et c'est même des conseils qui peuvent servir à toutes les personnes qui sont aussi neurotypiques.
Bien sûr.
Parce qu'en vrai,
se sentir bien, c'est génial.
Se sentir bien pour faire du sexe, c'est quand même vachement, vachement agréable, on va pas se mentir. Et ce côté, on parle beaucoup de créer une ambiance. Ça, c'est généralement, c'est dans la liste de conseils pour raviver la flamme.
C'est ça, mettre du piment dans son couple.
C'est ça, mettre du piment dans son couple. Alors qu'en fait, c'est juste des choses qui permettent de se sentir bien. Et voilà, ça peut servir à tout le monde.
Fermer la fenêtre quand on entend les bruits de l'école d'à côté pendant le sexe, parce que ça nous enfin, tous les trucs qui nous déconcentrent, on prend en compte le truc. Et plutôt que d'essayer de se reconcentrer, faire un effort mental, se dire, on se lève deux secondes, on ferme la fenêtre, on se lève, on éteint la télé, on allume, on met sa musique. Vraiment, tout le monde est concerné par ça. Faites les choses quand vous vous sentez bien et dans le meilleur contexte pour vous possible, quoi.
Et débriefez après aussi avec vos partenaires.
C'est vrai.
Pour savoir s'il y a des choses où ils se sont sentis bien, des choses qu'ils aimeraient changer, qu'ils aimeraient faire évoluer. Non seulement c'est très bon pour votre vie sexuelle en règle générale parce que ça alimente le désir et ça alimente la compréhension de l'autre, mais aussi l'après-sexe, c'est un moment où on est très vulnérable. Donc ça peut permettre de se rassurer sur le fait que c'est pas bizarre que j'ai envie qu'il y ait pas de bruit par exemple pendant le sexe, c'est pas bizarre que j'ai pas envie qu'on me parle, ou au contraire que j'ai envie qu'on me parle tout le temps parce que j'ai besoin d'un flot de paroles. C'est des règles qui sont valables en règle générale dans le sexe, mais particulièrement quand il y a un ou plusieurs des partenaires qui ont une neuroatypie, et des petits détails tout simples aussi. Moi je sais que par exemple ma compagne, elle m'apporte à boire après les rapports. Et c'est très important parce que les personnes neuroatypiques ne ressentent pas forcément la notion de soif. Et du coup, on se déshydrate très facilement. On est un peu des plantes vertes à ce niveau-là. Donc voilà, c'est penser à toutes ces petites choses qui peuvent faciliter la vie des personnes qui ont une neuroatypie. On prend déjà beaucoup de charge mentale, je pense, pour arriver à faire fonctionner notre corps et notre cerveau d'une façon qui soit acceptable pour notre entourage et pour nous-mêmes. Donc si jamais vous avez des relations avec des partenaires neuroatypiques, pensez aussi à toutes les façons dont vous pouvez vous aussi le ou la soulager.
Et puis c'est des petites attentions d'amour qui font toujours plaisir. Qu'on aime ou pas la personne d'ailleurs, ça peut être aussi parce qu'on est un bon amant ou une bonne amante, on fait attention à l'autre et c'est encore mieux après. Mais en fait, tous ces conseils qui servent aux neuroatypiques et aux partenaires de neuroatypiques peuvent aussi servir aux neurotypiques et à leurs partenaires, puisque du coup, il est question surtout de faire attention à l'autre, de communiquer correctement, de mieux se connaître, et que, en fait, le sexe, c'est pas magique. Le bon sexe, ça n'est pas magique non plus. C'est quelque chose qui s'apprend, se développe, et plus on grandit, plus on vieillit, et plus on se connaît, et c'est une bonne chose. Donc, globalement, ça servira à tout le monde. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à nous mettre en petit commentaire vos petits trucs de neuroatypique ou de neurotypique, les choses qui vous font sentir bien, partagez-les avec nous. Et puis Laetitia, je t'en remercie d'avoir partagé tout ça avec nous et avec moi.
C'était un plaisir. J'essaie d'en parler un maximum du TDAH parce que je sais que moi ça a changé plein de choses dans tout ça. Si jamais vous, parmi nos auditeurs et nos auditrices, vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi. Nos boîtes ADM sur Instagram sont ouvertes et on prend tout ce qui concerne les témoignages, les questions, notamment parce que ça peut nous inspirer des sujets pour des prochains épisodes.
Tout à fait, n'hésitez pas.
On fait aussi ce podcast pour avoir vos ressentis à vous et pour raconter vos histoires. Donc n'hésitez pas à nous questionner sur ce qu'on peut faire pour vous à ce niveau-là.
Merci Laetitia, merci à vous.
Merci Lucille. Laetitia et Lucille présentent Le Sexe est un podcast produit par TDA Prod. Cet épisode a été enregistré au studio Wacked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.